Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Philippiens. Qui ici a déjà lu un classique de la littérature? Si vous ne l'avez pas lu, il faut que vous le lisiez dans votre vie, d'accord? Le Voyage du pèlerin. Qui a déjà lu ça? Au moins chez les moins jeunes, je ne vous insulterai pas. C'est pas un livre pour les enfants, c'est un livre vraiment qui a été écrit pour les adultes, c'est un conte. John Bunyan a écrit ça alors qu'il était en prison pour sa foi. Vous devez lire ça au moins une fois dans votre vie, d'accord? Ça va vous challenger, ça va vous remettre en question sur l'Évangile, sur le salut, sur la marche chrétienne. C'est vraiment un excellent conte, c'est disponible en français. Puis John Bunyan a une parole qu'il a dite. Je la lis en anglais, puis après ça, je vous la donne en français. « You have not lived until you have done something for someone who can never repay you. » En français, « Vous n'avez pas vécu tant que vous n'avez pas donné quelque chose pour quelqu'un qu'il ne pourra jamais vous rendre. » Ce matin, on parle ensemble du service. On a donné comme titre à l'exposé « Au service de la collectivité ». Je vois que ça va être l'air d'un slogan publicitaire. Je voyais mon affiche avec ma face au service de la collectivité. Mais on est dans la série Contre-culture et on va parler ensemble du service, de l'importance du service chrétien comme marque particulière de l'Église au milieu d'une communauté, au milieu d'une ville. Comment est-ce que l'Église est appelée à apporter une saveur nouvelle? Et avant d'aller dans Philippiens, je veux juste vous raconter un peu un passage qu'on ne va pas lire ensemble ce matin. C'est dans Matthieu 20. Les versets 20 et 28, au cas où vous ne seriez pas familier avec, c'est un des premiers passages où Jésus va nous challenger puis va nous amener à revoir, à revisiter notre conception de ce que c'est un modèle, de ce que c'est un leader. Puis en fait, l'histoire est un peu loufoque, disons-le comme ça, parce qu'il y a une maman qui aimait beaucoup ses deux grands schnappants, Jacques et Jean, d'accord, qui est allée voir Jésus. Les mères sont vraiment extraordinaires, d'accord? Quand j'ai relu cette histoire-là, je me suis dit, si vous connaîtriez ma mère, vous comprendriez, là, mais ma mère serait capable de faire ça, vraiment, vraiment. Donc, elle est allée voir Jésus, puis elle dit, « Jésus, tu sais, Jacques puis Jean, ils t'aiment beaucoup. Fait que quand tu vas être dans ta gloire, là, est-ce qu'il pourrait en avoir un à droite puis un à gauche de toi? » Quand même, tu sais. Il faut comprendre un peu l'époque, ça veut dire que tu règnes avec le roi. Fait que j'étais en train de lire ça, puis je me disais, je pense que ma mère serait allée voir Jésus, puis elle aurait dit, tu sais, Yannick pourrait être à droite ou à gauche, puis Hugo pourrait être de l'autre bord, puis ça serait génial, tu sais. Fait que Jésus prend ça, il fait pas vraiment de réprimande, tu sais, parce qu'il voit le cœur d'une mère qui veut juste le meilleur pour ses enfants. Mais il prend cette circonstance-là, puis il va les enseigner avec ça. Je sais pas si on a le verset qu'on peut afficher, je vais vous le lire. Dans Matthieu 20, 26 à 28, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus introduisait une nouvelle idée dans la notion du leadership, dans la notion de la grandeur humaine, et leur dit, pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut choisir d'être serviteur, voire même d'être l'esclave des autres. Luc va nous lire maintenant le passage dans Philippiens, où on va aller voir ensemble comment Jésus a incarné cela, comment Jésus a été vraiment le modèle parfait d'un leader serviteur, d'un roi serviteur. On va prier ensemble avant. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer. On veut t'élever parce que tu es notre sauveur, Seigneur. Mais on veut reconnaître ce matin que, avant d'être notre sauveur, tu étais Dieu dans toute ton intégrité, dans toute ta gloire, Dieu le Fils dans toute ta majesté. Tu exerçais cette autorité divine sur l'univers, Seigneur. C'est ce que ta parole nous enseigne. Et tu t'es fait homme, tu t'es humilié, tu es devenu l'un des nôtres. Tu es devenu notre serviteur, Seigneur Jésus. Tu n'es pas simplement venu comme un modèle, mais tu es allé jusqu'à la croix. Et sur la croix, tu as pris le fardeau, le poids de nos péchés, Seigneur. Seigneur, je veux te demander ce matin de venir parler à nos cœurs. Tu nous as montré la voie, on a l'exemple à suivre, Seigneur. On comprend que qu'être un chrétien, Seigneur, c'est se faire le serviteur des autres. Et pourtant, il y a quelque chose dans ce mystère-là, cette vertu-là, Seigneur, où on a besoin que tu viennes te révéler à nos cœurs, puis nous montrer qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça. Comment est-ce que je peux réussir à vivre cela? Comment est-ce que je peux adopter cette posture-là, cette attitude-là? Je te demande, Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, par ton Esprit Saint. Viens ouvrir notre esprit pour qu'on puisse saisir que tu as été un exemple pour nous, Seigneur, mais la voie à suivre pour s'y rendre à notre tour. Montre-nous comment cette Église est appelée à briller autour d'elle par son service pour la collectivité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Amen. On va écouter maintenant la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin, tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 16, dans l'édition seconde 21. Donc, l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 16, édition seconde 21. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien.
Merci, Luc. Ce matin, on parle de service, puis une image qui me venait à l'esprit, c'est l'idée du partage. Lorsqu'on parle de service, on parle de partager notre temps, de se donner nous-mêmes, d'être généreux avec nos ressources, puis c'est pas vraiment dans la nature humaine. Peut-être la nature avant la chute, définitivement, mais aujourd'hui, c'est pas dans la nature humaine. Puis quand je parle avec des gens de notre nature pécheresse, souvent, si ces personnes-là sont parents, je m'en vais tout de suite aux enfants. Je m'en vais tout de suite aux petits-enfants pour leur dire, tu sais, si tu as des enfants, tu sais qu'on est pécheurs. On est pécheurs. Tu le découvres assez tôt avec tes enfants. Tu sais. Ils sont cute au début, mais assez vite, ils sont cute encore. Tu sais. Mais pas très généreux. Puis quand tu as un petit enfant de 2, 3, 4 ans, puis il a son jouet, puis il a même ses jouets, tu sais, puis il y en aurait en masse pour tout le monde. Puis là, il y a un autre enfant qui arrive, puis il veut en prendre un peu. Tu sais, c'est comme pas évident de partager. Ma maman m'a raconté, quand moi j'étais petit, j'avais ma technique. Vous avez votre méthode. Ma méthode à moi, c'est que je mordais. Si tu venais me prendre mes jouets, je mordais. Je sais pas c'est quoi votre méthode à vous, si vos parents vous ont raconté, c'est quoi votre technique pour garder vos jouets pour vous. Mais très tôt, ma nature pécheresse s'est démontrée, puis mon côté colérique aussi, il était évident très, très tôt. J'ai découvert à quoi ça servait des dents. C'est très, très, très fonctionnel. Ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et ce matin, on parle de service, on parle de générosité, on parle de partager. La semaine prochaine, on va être encore dans la générosité, mais sous une autre forme, différente, celle-là. Ce matin, on va parler particulièrement de service. Et dans la culture québécoise, il y a quelque chose de paradoxal. Les Québécois n'ont pas une grande, grande culture de bénévolat. Pas aussi grand qu'on va le trouver dans d'autres cultures. Puis pourtant, plus je découvre toutes les ressources qu'il y a dans le communautaire, c'est fou, là. Honnêtement, si tu as des besoins, il y a des ressources, presque tous les besoins que tu peux imaginer, il y a une ressource communautaire pour ça. Donc, il y a des gens qui ont pris sur eux-mêmes de faire du bénévolat pour s'entraider. Il y a beaucoup d'opportunités d'entraide dans la société. Mais en même temps, statistiquement, lorsqu'on étudie la culture québécoise, ce n'est pas une des plus grandes forces des Québécois de s'investir dans le bénévolat. Alors, une des choses qu'on veut réfléchir ce matin, avec la parole de Dieu, c'est, on est dans cette série Contre-culture où on parle de cette saveur. Rappelez-vous, dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que vos bonnes œuvres luisent devant les hommes afin qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. À quoi est-ce que Dieu appelle l'Église de l'Espoir? À quoi est-ce qu'il nous appelle? À quoi est-ce qu'il appelle ton groupe de quartier? À quoi est-ce qu'il vous appelle comme famille? Comme service envers votre famille, envers les enfants dans la maison, envers ton conjoint, envers des gens dans ta communauté, envers l'Église ici, ton service, comment, à quoi est-ce qu'il t'appelle toi? Mais comme Église aussi, à quoi est-ce qu'il nous appelle? Et c'est à ça qu'on veut réfléchir ensemble pour voir où est-ce que Dieu veut nous transformer. Pour apporter une saveur nouvelle à cette société-là, où ce n'est pas la plus grande force dans la culture. Les gens sont très occupés, la vie va extrêmement vite. Et trouver du temps pour faire du bénévolat, c'est souvent dans la pensée de bien. Moi, j'ai des gens qui viennent lorsque je suis à Bouffe pour tous. Il y a des gens qui arrivent, ils ne sont pas de l'Église, ils veulent faire du bénévolat. Ça fait longtemps que j'y pense, j'avais à cœur de faire ça. Mais en même temps, ce n'est pas super présent dans la société. Comment est-ce que par le service, on peut faire une différence? On va voir ensemble ce matin, le service est une question d'ambition pour le royaume de Dieu. Dans la perspective chrétienne, il y a quelque chose qui change fondamentalement, puis le service devient une question d'ambition pour le royaume de Dieu, mais à la fin, c'est toujours une affaire de cœur. C'est surtout une affaire de cœur, le service, lorsqu'on a à se donner nous-mêmes. Alors, tournez avec moi dans Matthieu 20, puis on va aller dans quelques minutes dans Philippiens, d'accord? Tournez avec moi dans Matthieu 20 au verset 25. Matthieu 20, 25, Jésus apporte une nouvelle définition, une nouvelle vision de ce que c'est un grand, un chef, un leader, une personne en responsabilité ou qui a de grandes responsabilités. Dans Matthieu 20, 25, on lit, « Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Jésus leur dit, « Vous savez comment se comportent les gens à qui on donne du pouvoir. » Par nature, ils deviennent des tyrans. Par nature, ils vont abuser du pouvoir. Le pouvoir corrompt, puis beaucoup de pouvoir corrompt énormément. Et donc, Jésus fait juste dire, ceux qui sont en autorité peuvent prétendre être là pour servir, mais on sait qu'il y a une corruption qui est là, puis il y a des tyrans, puis il y a des dictateurs, puis à l'époque, c'était encore beaucoup plus évident. On a le privilège de vivre dans une démocratie, mais il y a toujours cette tentation-là, on le sait, lorsque tu es en autorité, de profiter cela pour ton intérêt personnel. Et Jésus est en train de dire, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Fait que tu penses à n'importe quelle position d'autorité dans ta maison, dans une classe, à job, n'importe où, dans un groupe où tu as quelque chose à accomplir, dans ton équipe de sport, n'importe où, à partir du moment où tu as un rôle d'autorité, où tu es un chef, où à quelque part tu as comme un statut que tu es grand, Jésus nous dit ça ne fonctionne pas comme dans le monde, dans le royaume de Dieu. Il n'en sera pas comme ça. Ça va être complètement différent. Jésus nous apprend ici qu'être grand dans le royaume de Dieu, c'est devenir serviteur. Accepter d'être au service des autres. Choisir, prendre la décision que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour servir les autres. Puis ce passage-là, c'est un passage qui m'interpelle personnellement depuis le début de ma vie chrétienne. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord du tout. Chaque fois que je l'ai lu et que je pense aux Québécois, j'entends comme déjà une réponse. J'ai l'impression de pouvoir deviner la réponse qui va venir. Regardez bien ce que le passage dit, je vais juste vous le rappeler avant. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » J'ai comme l'impression que culturellement, pour les Québécois, c'est quelque chose où, il me semble que j'entends des Québécois dire, j'ai peut-être des ambitions personnelles, mais je ne tiens pas à être le plus grand dans le royaume de Dieu. Je ne tiens pas vraiment à être comme au-dessus de tout le monde dans le royaume de Dieu. Fait que ça s'applique peut-être pas à moi, ce passage-là, en fin de compte. Je sais pas, vous pensez pas? Toute la question de l'ambition au Québec, c'est quelque chose, c'est un espèce de... Il y a comme un malaise avec ça, faut pas être trop ambitieux. Mais là, tu transposes ça dans le christianisme, puis tu dis, ouais, mais là, Jésus est mort sur la croix, notre modèle, c'est quelqu'un d'humble, donc tu peux pas aspirer à de grandes choses, tu peux pas avoir de l'ambition quand tu es chrétien, surtout pas dans les choses de Dieu, ça fonctionnerait pas. Peut-être que ça ne s'applique pas à moi, ça. Détrompez-vous. Les Écritures nous encouragent fortement à avoir de l'ambition. Pour le royaume de Dieu, énormément d'ambition pour le royaume de Dieu. Jésus avait beaucoup d'ambition lui-même. Fait que quand j'étais en train de lire ça, je me disais, OK, Jésus prend pour acquis que ses disciples vont se battre pour la première place. Je me suis dit, ça ne fit pas tout à fait au Québec, pas avec les Québécois en tout cas. Peut-être dans d'autres cultures, tu vas être comme celui qui va être leader. Personnellement, moi, ça m'a challengé dès le début de ma vie chrétienne. C'est clair pour moi. Je suis allé voir le pasteur je l'ai dit souvent à l'église, dans les 12 premiers mois, je suis allé voir Richard Roule. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, j'aimerais ça prendre votre place. C'est comme ça. Il n'a pas dit de même, vous comprenez, mais c'est ça que ça voulait dire. Fait que pour moi, c'est si je suis Jésus, ben je vais faire ça à temps plein, puis let's go, faut que je dirige du monde. Mais en même temps, je pense que ça détonne avec la culture québécoise, puis on a besoin de réaliser qu'il y a vraiment une saine ambition pour le royaume de Dieu. Puis Jésus avait plein d'ambition pour la gloire de son Père, puis même pour sa gloire à lui dans le royaume de Dieu. On lit dans Jean 17, versets 4 et 5. Jésus a accompli son ministère terrestre, il se prépare à aller vers la croix, puis il fait cette prière à son Père. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Christ, avant d'être Jésus de Nazareth, c'est Dieu le Fils. C'est la deuxième personne de la Trinité. Il est dans la gloire avec le Père, puis volontairement, il devient un homme, il s'humilie, il vient marcher parmi les hommes. Mais l'aspiration de son cœur, c'est de retourner dans la gloire avec son Père. Clairement, c'est ça. Christ n'est pas dans son terrain connu lorsqu'il est sur la terre. Il n'est pas à l'endroit où il est censé être. On a une espèce une image fausse dans le sens qu'il est entièrement un, mais il mérite la gloire, puis on ne lui donne pas la gloire. Et donc, volontairement, il s'abaisse, c'est ça qu'on va voir dans Philippiens, mais ensuite, lorsqu'il termine ça, c'est quoi sa prière? « Père, maintenant, rends-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Je veux retourner à ta droite, Père, dans la gloire avec toi. » Et je crois clairement que les Écritures enseignent qu'à partir du moment où on devient des fils et des filles de Dieu, nous sommes appelés à la gloire. Je ne sais pas si ça rentre ça dans ta tête. Je ne sais pas si ça rentre dans ta conception du christianisme. Pourtant, les Écritures sont claires. Je vais vous lire quelques passages. À partir du moment où je deviens un fils, une fille de Dieu en croyant en Jésus-Christ, je suis appelé à la gloire. Yannick est appelé à la gloire. Il y a la gloire de Dieu. Mais moi, je suis appelé à participer à sa gloire. Et en cela, je vais moi-même être glorifié. Jamais comme Dieu. Jamais à la place de Dieu, d'aucune manière. Je vous lis quelques passages rapidement, d'accord? Très rapidement, dans Romains 2, 7, c'est l'apôtre Paul qui dit « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » C'est quoi cette gloire-là? La gloire que donnent les hommes, les applaudissements des hommes? Pas du tout. La gloire qu'il y a à entrer dans la présence de Dieu puis à participer à sa gloire, être un agent de sa gloire qui va le glorifier. Romains 8, 18, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur ça ce matin? C'est parce que choisir de devenir un serviteur, c'est comprendre les temps où nous sommes. C'est comprendre l'économie du royaume de Dieu. Christ n'est pas revenu encore dans sa gloire. Mais un jour, il va revenir et tous ceux qui ont marché avec lui sont appelés à entrer dans sa gloire, à participer à sa gloire. Et donc, il y a une gloire merveilleuse pour les fils et les filles de Dieu qui vont être avec Dieu. Et choisir d'être un serviteur, je le fais dans la même perspective que Christ l'a fait. Christ s'est humilié et est devenu le serviteur de tous. Il l'a fait volontairement. Il a offert sa vie en rançon, c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 28, dans Matthieu 20. Il l'a fait volontairement, sachant qu'après, il allait être rappelé dans la gloire avec le Père. Et pour nous, choisir d'être des serviteurs dans un monde de pécheurs, un monde d'ingratitude, un monde difficile, ça se fait toujours dans cette perspective-là, que je suis juste en train de suivre mon maître, je suis en train de marcher à sa suite, et bientôt, très bientôt, il s'en vient me chercher pour me faire entrer dans la gloire avec lui. Amen? C'est comme ça que je choisis d'être un serviteur. C'est parce que je veux suivre Christ et je veux un jour entrer dans la gloire avec lui. Alors, il dit au verset 26-27, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Le service est une question d'ambition pour le royaume de Dieu. Et il y a vraiment une place comme chrétien pour que je cherche la gloire de Dieu à travers ma vie et que j'ai hâte d'entrer dans cette gloire-là. Et il y a vraiment une place pour dire, je cherche l'excellence de ma vie chrétienne. Je veux donner tout ce que j'ai à donner pour servir Dieu. Et je sais que des fois, on a de la difficulté avec ça parce qu'on dit, Yannick, on est sauvé par grâce, on n'a rien à accomplir, mais en même temps, je vais mettre tous mes efforts à poursuivre Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et je le fais pourquoi? Parce que je veux entrer dans sa gloire. Et lorsque je vais aller dans sa présence, je veux entendre sa voix dire, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Je sais que je suis sauvé par grâce, mais je veux participer à cette gloire-là absolument. Alors, quand je me sens méprisé, quand je suis en train de servir des gens, puis on ne me traite pas avec dignité, ça change énormément de choses lorsque je comprends que de toute façon, ce que je cherche, c'est la gloire que Dieu va rendre à ses serviteurs. C'est ça que je cherche. Je cherche à être reconnu par Dieu, pas par les hommes. Lorsque je suis en train de servir, je suis en train de me donner, puis je suis là, puis je suis zélé, puis je prends des choses à cœur, je prends des gens à cœur, puis c'est juste du mépris, de l'ingratitude à laquelle je fais face. Puis ça arrive tout le temps. Je ne cherche pas les applaudissements des hommes. Ce n'est pas vraiment important. C'est sûr que ça fait de la peine. C'est sûr que ça fait du bien quand les gens sont reconnaissants. Ça fait toujours du bien quand les gens sont reconnaissants. Mais je n'ai pas décidé de les servir pour qu'ils soient reconnaissants. J'ai décidé de les servir parce que j'ai compris, comme enfant de Dieu, que j'appartiens à un autre royaume dans lequel le roi s'est fait serviteur. Et donc, que les gens soient reconnaissants, qu'ils soient méprisants, qu'ils ne réalisent pas tout ce que je fais pour eux, qu'ils soient ingrats, que je subisse de l'injustice, ça fait mal. Mais ce n'est pas si grave que ça. Parce que je ne cherche pas l'applaudissement des gens. Je sais, je connais mon identité. Je suis un fils de Dieu et j'appartiens au royaume de Dieu. Et si le fils de Dieu, unique et parfait, qui est Jésus-Christ, s'est humilié, c'est bon pour moi de faire ça. C'est correct de faire ça. Parce que ce que je veux dans mon cœur, c'est prier. Comme Jésus. Père, tu vois, je suis en train de servir. J'attends le retour de ton fils. J'ai hâte d'entrer dans la gloire avec ton fils. J'ai hâte de t'adorer, de te célébrer. J'ai hâte à ça, Seigneur. C'est pas tellement grave quelle attitude les gens ont envers moi quand je suis en train de servir. Et je vous pose quelques questions, rapidement. Qu'est-ce qu'un serviteur, selon vous? À la lumière de tout ça, dans votre cœur, comment vous résumez c'est quoi un serviteur? Et tassez un petit peu le texte un instant, puis faites juste penser, si je vous dis serviteur, c'est quoi un serviteur? C'est quoi les attitudes d'un serviteur? C'est quoi les priorités d'un serviteur? C'est quoi les priorités d'un serviteur? C'est notre appel. Mon appel, ton appel, si tu es en Jésus-Christ, ton appel, c'est d'avoir les mêmes priorités qu'un serviteur. C'est quoi les priorités d'un serviteur? Servir son maître, s'assurer de l'avancement de son maître, s'assurer qu'il est bien servi, qu'on a pris soin de lui. Puis Christ nous dit ici, si vous voulez être le plus grand, soyez serviteur des autres. C'est quoi les priorités d'un serviteur? On a dit au début, le service, c'est une question d'ambition pour le royaume de Dieu, mais c'est surtout une affaire de cœur. C'est surtout une affaire de cœur. Tournez avec moi dans Philippiens, on va dans Philippiens, puis on va aller voir les sentiments de Jésus. Ce matin, je veux faire attention pour ne pas vous dire qu'est-ce que vous devriez faire. Je ne veux pas vous donner des exemples de « voici ce que vous devez faire ». Parce que le service, c'est premièrement une question de cœur. C'est premièrement une affaire de cœur. Une fois que le cœur est là, tu rouvres les yeux, puis le cœur trouve la place pour servir. Les mains vont trouver leur chemin par elles-mêmes pour aller servir. Une fois que le cœur est au bon endroit. Est-ce que vous êtes d'accord? Les mains vont trouver leur chemin si le cœur est au bon endroit. Alors, ce matin, volontairement, vous ne partirez pas d'ici avec des exemples de ce que vous pourriez faire concrètement cette semaine. On veut juste parler du cœur d'un serviteur. Sachant que si l'Esprit de Christ habite en vous comme il habite en moi, il va appliquer ces paroles-là. Il va vous inspirer comment servir. Vous allez trouver le chemin, les endroits où vous appelle à servir et comment servir. Alors, c'est vraiment une question de cœur. Le service est une question d'ambition, mais surtout une question de cœur. Tournez avec moi dans Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De quels sentiments on parle? Ceux qui imaginent Dieu pensent que Dieu n'a pas de sentiments souvent. Puis la grâce qu'on a de connaître Jésus-Christ, Dieu le Fils, c'est qu'on a découvert un être qui avait plein de sentiments, plein de pensées, plein de préoccupations, plein d'attitudes. Il était rempli d'amour. C'était un être charitable qui voyait les gens maganés de la société puis qui avait naturellement compassion pour eux. C'était quelqu'un qui détectait l'hypocrisie puis qui détestait ça. Jésus avait de très mauvais sentiments envers les hypocrites. Est-ce que je peux dire ça? Il y avait même parfois de la colère envers l'hypocrisie. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait ses amis, qui pouvait pleurer sur ses amis. Et lorsque Paul dit ici, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », le mot qui est là pour « sentiment » ne parle pas juste des émotions. Ça parle de la manière de penser, une disposition de penser, une attitude en général. Donc, ça se loge plus dans la tête que juste au niveau des tripes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en Jésus? Il y avait en Jésus le choix de devenir un serviteur. Regardez le verset 6. Toujours parlant de Jésus, lequel existant en forme d'homme n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Christ, avant de venir sur la terre, était Dieu le Fils. Il était dans la gloire. Jésus-Christ n'avait aucun problème avec son identité. Des fois, on fait un gros cas de la question de l'estime de soi, puis c'est une grande question, mais comprenez que Jésus n'avait pas de problème d'estime de soi. Il savait qui il était, il savait ce qu'il valait, il connaissait toute sa valeur. Il n'avait aucun problème avec son identité. Il est Dieu le Fils, il règne dans la gloire. Il n'y a pas de problème avec son identité. Et donc, à partir de ce moment-là, il est capable de renoncer à une part de son identité pour prendre la forme d'un serviteur, devenir un homme. Cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un, puis on est en train de parler de la création, puis Dieu, puis j'ai juste fait un dessin, puis j'ai dessiné comme la terre, puis Adam et Ève qui sont là-dessus, puis j'ai mis Dieu au-dessus, tu sais. Puis j'ai dit, tu peux-tu faire un rapport de proportion entre Dieu puis un homme sur la terre? J'ai fait un point, évidemment, mon point n'était pas assez petit pour représenter un être humain. Il aurait fallu qu'on ne le voit pas, le point. Mais j'ai dit, est-ce que tu arrives à faire comme une espèce de proportion dans ton esprit entre Dieu et un être humain lorsqu'on le met comme ça? Puis Jésus-Christ, Dieu le Fils a choisi de devenir Jésus de Nazareth, de se faire un homme comme nous. Parce qu'il savait très bien qui il était, puis ce n'était pas une question pour lui. Et donc, il a choisi volontairement d'embrasser l'humilité, de devenir humble. C'est ça que le passage nous dit. Il a choisi de s'humilier lui-même. Versets 7 et 8. Mais il s'est dépouillé lui-même de son propre chef. En prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Christ savait ce qu'il était, connaissait sa valeur, connaissait sa gloire, sa majesté. De toute éternité, il était célébré avec Dieu le Père, dans la Sainte Trinité, glorifié par les anges. Et en toute connaissance de cause, il a choisi de se dépouiller lui-même pour devenir un serviteur. Et le plus bas des serviteurs, il s'est rendu jusqu'à la croix, à la mort la plus humiliante qui existait à l'époque. Est allé mourir sur la croix pour nos péchés. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, on trouve tout ce qu'il nous faut pour savoir qui nous sommes, qui nous étions avant de connaître Jésus-Christ, qui nous sommes maintenant, et pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir. J'étais un pécheur égaré loin de Dieu. J'avais toutes les raisons du monde d'avoir des problèmes d'estime personnelle, puis je veux dire, si j'avais été lucide, j'aurais dit, devant Dieu, là, tu peux te comparer avec tes chums, a gang of sinners, là, puis tu sais, peut-être que tu arrives comme à faire de quoi, mais devant Dieu, non, tu as raison. Mauvaise estime de soi, non, dans le fond, tu fais juste te voir comme tu es, peut-être. Mais quand je viens à la connaissance de Christ, je deviens un fils, une fille de Dieu. J'entre dans la famille de Dieu. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire que je deviens un co-héritier de Christ et je vais entrer dans la gloire avec Christ. À partir de ce moment-là, comprendre le pattern que Jésus a suivi puis décider moi de le suivre, je peux faire ça aisément, devenir un serviteur. Ça ne remet rien en question sur moi. Tout ce que ça dit, c'est qui je suis en train de suivre. Ça ne remet rien en question sur ma valeur. Christ l'a fait par lui-même, il s'est dépouillé. C'est un choix qu'il a fait. Et donc l'apôtre Paul nous dit, ayez comme mentalité, comme manière de voir les gens autour de vous, de voir l'Église, ayez comme mentalité la même mentalité que Jésus avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Il s'est humilié, puis il a choisi de devenir un serviteur, puis d'entrer à notre service. Parce que je connais Jésus-Christ, je suis libre de choisir l'humilité. Et ça ne veut pas dire que je trouve que je ne vaux rien. Je sais que j'ai été aimé du Père. Fait que ça se peut que les gens que je suis en train de servir à la maison, mes enfants, mon épouse, ça se peut que mon mari, ça se peut que les gens que je suis en train de servir à l'Église, au travail, ça se peut que je subisse de l'ingratitude à tour de bras, puis les gens ne réalisent pas à quel point je me dévoue, puis je pourrais rentrer dans cette game-là de commencer à dire, non, mais qu'est-ce que c'est de même, je vais arrêter de vous servir. Je pourrais le faire. Mais si je me rappelle qui je suis comme enfant de Dieu, ce qui est mon sauveur, d'une part, je sais qui je dois imiter, c'est Christ. Puis d'autre part, je sais que ça ne remet rien en question sur l'amour du Père pour moi. Au contraire, le Père me voit servir. Puis il regarde ce que je suis en train de faire pour sa gloire. Alors, je vous pose encore quelques questions pour vous faire réfléchir. Est-ce que tu as généralement un cœur de serviteur? Juge personne, c'est toi qui le sais devant Dieu. Est-ce que généralement, tu as un cœur de serviteur? Je souhaite que oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vraiment un cœur de serviteur. Sinon, pourquoi? Quel est l'élément que Dieu est en train de souligner? Peut-être ici ce matin, par son esprit, par sa parole, quel élément qui est en train de souligner qui manque pour que tu aies généralement une attitude de serviteur? Concrètement, une autre question. Quelle personne autour de toi es-tu appelé à servir? Je peux le formuler autrement. Quelle est la personne que ça te coûte vraiment le plus de servir autour de toi? Est-ce qu'il y en a une que tu refuses, dont tu refuses d'être le serviteur? Un ennemi? Ah, ça, ce serait un autre sujet, nos ennemis. Ce matin, est-ce que tu vois la gloire, la beauté de la voie que Jésus a empruntée? C'est vraiment une voie majestueuse qui permet à l'Église d'apporter une saveur que le monde ne connaît pas. Et je veux terminer avec une idée. Toujours dans le passage de Philippiens. Après, Paul va commencer à parler à l'Église de Philippe, puis il va parler des besoins de l'Église qui est dans la ville de Philippe, puis là, il commence à parler des gars qu'il veut envoyer pour aller aider, tout ça. Puis le même thème demeure, la même question d'attitude de service demeure. Vous allez voir comment est-ce que Paul l'applique, d'accord? Et ce qu'on découvre à travers ça, c'est qu'être un serviteur, c'est une affaire de cœur, ça commence dans mon cœur, mais c'est aussi une question de prendre à cœur des gens. Vraiment de les prendre à cœur, de les porter sur mon cœur. Regardez les versets 19 et 20. J'espère dans le Seigneur Jésus, je m'excuse, vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, que cette disposition-là que moi j'ai pour vous servir, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Devenir un serviteur, c'est savoir qui je suis, savoir qu'être grand dans le royaume de Dieu, c'est accepter de devenir un serviteur, parce que je suis en train de suivre mon Seigneur qui s'est fait serviteur. Devenir un serviteur, c'est choisir d'avoir la même pensée, la même mentalité de Jésus. Je sais que la gloire m'attend, je sais que je vais retourner auprès du Père. Christ revient bientôt me chercher. Et donc, je suis là pour servir, puis comme Christ a été élevé au-dessus de tout nom, il va m'inviter à participer. Nous sommes l'épouse de Christ, les noces de l'agneau s'en viennent, les amis. Donc, c'est une question de disposition de cœur. Mais c'est aussi une question de prendre à cœur la situation de personnes et de gens très concrets. Sincèrement à cœur des gens qui sont là. Peut-être que vous vous rappelez lorsque vous étiez au primaire, au secondaire, dans votre enfance ou dans votre jeunesse. Est-ce qu'il y a une personne, un adulte autour de vous? Ça peut être un professeur, ça peut être vos parents, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être un ami de la famille, mais il y a une personne, vous vous rappelez d'un moment où cette personne-là vous a eu à cœur. Elle a eu à cœur votre bien, votre avancement. Elle a eu à cœur de voir que les choses se placent, que vous puissiez grandir. Ceux d'entre vous là, qui avaient une personne en tête, là, pensez au bien que ça vous a fait de réaliser qu'elle vous avait à cœur. De voir que... Des fois, c'est un prof hein, qui voit que tu ne files pas et qui dit « Veux-tu rester 5 minutes après la classe? Je veux qu'on se parle. » Puis c'est, des fois, c'est une conversation qui fait toute une différence dans une vie. Parce que la personne a eu à cœur. Et comme serviteur de Christ, comme serviteur les uns des autres, on est appelé à prendre, à avoir à cœur. Alors, je vous le demande ce matin, je vous laisse avec plein de questions ce matin, puis c'est à vous de trouver les réponses. Qui est-ce que Dieu met sur votre cœur? Comme serviteur de Christ, qui est-ce que Dieu vous appelle à servir? Qui est-ce que vous avez à cœur, sincèrement? Dans le grec, c'est la notion d'inquiétude un peu qui est là. En anglais, souvent, ça va être traduit par « worries », s'inquiéter de quelqu'un, s'inquiéter du bien-être de quelqu'un. Qui est-ce que Dieu met sur votre cœur? Cette semaine, lorsque vous allez être avec votre groupe de quartier, prenez le temps de discuter ensemble pour dire, juste posez la question, mettez-la sur la table. Qu'est-ce que Dieu nous appelle, nous, à prendre à cœur? Ou comme famille, c'est une belle discussion à avoir. Comme famille, pas juste comme individu, comme famille, comme couple, avec le groupe de quartier. Puis j'ose vous dire, comme l'Église de l'espoir, Dieu nous a placés ici pour que nous soyons la lumière. Et pour que, à travers nos bonnes œuvres, à travers le message de l'Évangile, à travers notre témoignage chrétien, des gens soient attirés à Christ et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et une des voies, une des clés les plus importantes, c'est que nous devenions des serviteurs. Et il y a plein de serviteurs ici dans l'Église, il y a plein de gens, vous êtes déjà dans le service, et je vous pose la question, puis on vous pose la question, puis priez sur ça, parlez-en, venez nous partager qui est-ce que vous croyez que Dieu nous appelle à prendre à cœur comme Église? Vers qui est-ce que Dieu nous envoie qu'on pourrait prendre à cœur? Peut-être que Dieu a placé quelque chose sur ton cœur, puis Dieu veut mobiliser des gens autour de toi dans l'Église pour aller puis prendre à cœur. Puis il va y avoir un groupe de quartier qui va aller autour de ton projet, puis vous allez prendre à cœur des gens en particulier. Je ne sais pas. Mais priez sur ça, parce que Dieu nous appelle à prendre soin. Qui est-ce que Dieu vous met à cœur pour sa plus grande gloire? Et on va terminer avec Philippiens. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Philippiens 2, je remonte un tout petit peu plus haut dans le chapitre, les versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi laquelle, écoutez bien l'écho de Matthieu 5, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Je veux juste attirer votre attention sur quelque chose dans le passage. Le contexte, là, c'est devenir des serviteurs les uns des autres. Le contexte, c'est de renoncer à moi pour chercher l'intérêt des autres plutôt que juste le mien. Et donc, porter la parole de Christ ici, là, c'est pas prêcher l'Évangile. Ou, c'est pas vraiment français, mais prêcher l'Évangile en action, peut-être. Mais c'est vraiment en portant en nous la pensée et l'attitude de Christ. Le contexte, c'est ça. C'est devenir des serviteurs, avoir en moi l'attitude, les sentiments qui étaient en Jésus. Puis prendre à cœur des gens autour de moi, dans ma famille, dans ma maison, dans mon voisinage. Choisir de renoncer à moi-même, de devenir leur serviteur. Puis servir, ça, il y a un prix à ça. Ça veut dire que la reconnaissance ne sera pas toute là. Mais ce n'est pas important pour moi. Voyez-vous, ce n'est pas important. Parce que j'attends la gloire quand Christ va revenir, puis je vais entrer dans la gloire. Déjà, le Père a élevé le Fils au-dessus de tout nom. Et bientôt, très bientôt, très bientôt, les fils et les filles de Dieu paraîtront dans la gloire avec lui lorsqu'il va revenir. Et notre appel entre-temps, c'est de devenir des serviteurs. Simplement en suivant Jésus. Il s'est fait serviteur en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est pas facile d'être serviteur lorsque je calcule le prix à payer, mais lorsque je saisis que c'est premièrement quelque chose de cœur. Lorsque je fixe les yeux sur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus facile de devenir un serviteur et de prendre à cœur des gens autour de moi. Puis Dieu nous appelle à grandir comme Église pour avoir cette saveur-là dans une culture, une société où prendre soin, le bénévolat, aller vers les autres, aller vers ton voisin, qui fait ça aujourd'hui? Mais Dieu nous appelle à le faire parce qu'il nous a laissés ici. Pour qu'il y ait des gens qui voient nos bonnes œuvres et qui viennent entendre l'Évangile et qui connaissent Jésus-Christ et qui rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux. On va prier ensemble. Oh Seigneur Jésus, je veux te confesser que souvent, c'est dur pour moi d'être un serviteur. Personnellement, Yannick Etier, j'estime me donner tellement pour les gens autour de moi. J'ai le sentiment, Seigneur, tellement de me dévouer, d'être là, d'être attentif aux moindres détails, de ramasser tout ce qui tombe, Seigneur. Souvent, Père, ce qui vient dans mon cœur, c'est pourquoi encore moi? J'en fais pas encore assez? Pardonne-moi, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur Jésus, et être un serviteur. J'ai plein d'ambition pour la gloire de Dieu, Seigneur. J'ai plein d'ambition pour le royaume de Dieu. Je veux être auprès de toi dans ta gloire, Seigneur, et je veux voir d'autres âmes élever ton nom, et je veux voir des gens dans la ville de Longueuil. Seigneur, nous voulons voir des gens à Longueuil célébrer ta gloire dans nos familles. Aide-nous à embrasser, Seigneur, volontairement la croix, à nous humilier, à nous dépouiller, Seigneur. Avec joie, parce que nous te suivons, Jésus. Viens parler à nos cœurs cette semaine, viens appliquer ta parole dans nos cœurs, viens nous montrer, Seigneur, la personne que tu veux que nous allions servir, viens nous montrer comment servir, viens nous montrer notre cœur, Seigneur, et viens régner dans notre cœur, afin que nous soyons dans cette joie que tu avais de servir ton Père et de servir les hommes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.